Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, avec aujourd'hui pour débattre Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog, Vue du droit, vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire, le magazine de Michel Onfray. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Bonjour. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Et nous attendons bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour, et nous attendons Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique qui n'est pas encore connectée. Et on va revenir avec vous sur ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Mais évidemment, on va parler de ces manifestations, de ces casseurs. Certains veulent interdire les manifs en centre-ville. Beaucoup de questions autour de ces black blocs. Comment les arrêter, comment les contenir. Beaucoup de 500 casseurs à Paris pour 5000 manifestants. On a un petit peu de mal à comprendre. Emmanuel Macron sur Brut pour s'adresser aux jeunes, a-t-il réussi à les convaincre? Contrôle aux faciès, les policiers sont en colère. Ça fait partie des annonces qui ont été faites justement dans l'interview du président de la République sur Brut. Et puis il a également annoncé qu'il voulait rebaptiser les noms de rues avec des personnalités issues de la diversité. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va quand même essayer. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Arnaud Benedetti.
Ben moi, c'est plutôt un coup de gueule, en l'occurrence. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Cette vieille dame qui s'est fait verbaliser, qui avait 73 ans, qui a manifestement un Alzheimer pour défaut d'attestation. Elle avait mal noté manifestement le jour et les horaires de sortie. Elle allait faire les courses à 800 mètres de chez elle. Alors, elle a été verbalisée. Elle a été condamnée par le tribunal de police de Vesoul avec une majoration de l'amende à 166 euros, je crois. Enfin, tout ça pour dire qu'on est véritablement dans l'absurde, c'est idiot, c'est bête, c'est une absence de discernement à la fois du fonctionnaire de police qui l'a verbalisé et puis ensuite du tribunal de police, j'imagine. Enfin, je parle sur le contrôle de Régis de Castelnau, en l'occurrence, qui a majoré l'amende. C'est révélateur finalement quand même d'un climat où l'intelligence de la situation manque parfois pour tout simplement appliquer des consignes, certes, qui sont peut-être nécessaires en l'occurrence, mais je trouve que c'est révélateur de cette absurdité qui a été dénoncée par déjà plusieurs observateurs, et je ne suis pas sûr que ça aille, si vous voulez, dans le sens d'une bonne compréhension par l'ensemble de nos concitoyens aux mesures sanitaires.
Je voudrais ajouter un petit quelque chose.
C'est sur l'aspect technique des choses. On a bien vu qu'il y a eu, c'était au premier confinement que cette affaire s'est déclenchée. Il y a eu une vision très punitive du confinement. 1 million d'amendes en France contre 9 000 en Grande-Bretagne. Bon, moi je veux bien, mais et puis des centaines d'anecdotes de ce type. Le deuxième a été moins fort. Le caractère répressif. Enfin, je raconte aussi l'anecdote de Madame Klarsfeld, enfin, je veux dire, 83 ans, qui est descendue à la pharmacie parce qu'elle avait des médicaments à acheter, et qui a oublié, à 83 ans, elle a oublié son attestation, elle a été immédiatement verbalisée. Ce qui est plus sérieux dans l'affaire de Vesoul, c'est que les magistrats marchent dans cette combine. Que les policiers fassent du zèle, c'est pas nouveau, si vous voulez, et que l'arbitraire finalement soit à ce point présent. Mais justement, si vous faites un recours, parce que vous pouvez contester et ensuite ça vient devant le tribunal, à vos risques et périls, puisque si votre contestation n'est pas reçue, eh bien à ce moment-là vous avez une majoration. Et là, que le magistrat en cause, un magistrat unique, un tribunal de simple police, n'est pas jugé bon d'exonérer cette personne, c'est profondément scandaleux. On a un problème, moi je pense. Les forces de l'ordre sont très nombreuses, c'est pas un métier facile. Le métier de magistrat est plus confortable, et là on aurait pu espérer un peu d'intelligence.
Mais comment on se retrouve au tribunal? Pardon, je suis assez nul en droit et en procédure, mais comment on se retrouve au tribunal pour une amende?
Parce qu'elle a contesté.
Voilà. Si vous la contestez, il faut qu'il y ait une décision d'un juge. Si vous acceptez, vous payez amende de simple composition, comme on dit. Mais si vous contestez, le juge doit à ce moment-là arbitrer. Hein, donc, la responsabilité de cette affaire, c'est bien la justice qui, à mon avis, est défaillante.
Oui, d'accord. Votre coup de gueule à vous, Régis de Castelnau ?
Mais j'ai pas dit coup de gueule, moi, j'ai dit coup de cœur.
Ah non, coup de cœur. Ah pardon, excusez-moi.
C'est
mon inconscient. C'est mon inconscient. Vous allez parler.
J'ai un peu hésité, mais compte tenu des thèmes du jour, mais tous les coups de gueule, ils étaient rassemblés dans nos problématiques d'aujourd'hui. Non, c'est le texte de Michel Onfray ce matin dans Front Populaire. Alors, je fais un peu de publicité pour le média dans lequel auquel je collabore, mais il a eu le Covid, Michel. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé assez sérieux. Hein. Il a eu un gros infarctus, il a eu un AVC dans le passé, et le Covid lui est tombé dessus. A priori, il l'aurait attrapé en allant sur le conflit Arménie-Azerbaïdjan. Et il le raconte dans un très, très beau texte que j'invite à lire, qui montre bien que c'est un écrivain. Quoi. C'est un écrivainet. Dès qu'il a pu sortir, ça faisait 3 semaines qu'il ne pouvait plus écrire, ce qui ne lui est jamais arrivé dans sa vie, dit-il. Hein, et dès qu'il s'est senti un peu mieux, il s'est assis devant son écran et il a pondu un très beau texte sur la maladie. Avec, alors naturellement, tout le monde relève le fait que il s'est adressé à Didier Raoult et que celui-ci lui a déconseillé l'hydroxychloroquine du fait de ses antécédents cardiaques, évidemment. C'est la contre-indication, mais naturellement, aujourd'hui, les réseaux font des gorges chaudes en disant que enfin Raoult a changé d'avis. C'est pas du tout ce que dit Michel, mais vraiment sur cette maladie.
Non, juste, je vous lis son test quand même pour être très précis, parce qu'il y a un infectiologue de Bucha qui dit c'est quand même incroyable, ces grands promoteurs de l'hydroxychloroquine, ces adorateurs du protocole Raoult, ces profondeurs de la méthode scientifique, le jour où ils sont malades, hors de question de prendre cette molécule toxique. Bon pour le peuple, mais pas pour eux. Et ce que dit Michel Onfray, c'est mon premier mouvement consiste à joindre le professeur Raoult. Mon médecin entre en contact avec l'équipe marseillaise. Il a cru à l'hydroxychloroquine. Il y croit moins, voire beaucoup moins, mais m'expose les faits sur mon passé cardiaque. Donc c'est son médecin, c'est pas le professeur Raoult qui le lui a déconseillé. C'est son médecin qui a cru à l'hydroxychloroquine et qui lui dit que ça l'expose à un risque de mortalité induite par l'usage de ce médicament et que donc il ajoute. Torsade de pointe, est-il dit, pour caractériser la mort qu'on risque en prenant cette thérapie dont on ne sait finalement si elle soigne ou non. Pour l'heure, je n'ai pas envie de mourir en martyr de l'hydroxychloroquine. Passer le bras à gauche à cause du Covid, mais à cause du médicament censé soigner, c'est plus d'ironie que je n'en peux ces temps-ci. Donc, pardon, moi, ce texte, en toute objectivité, je sais que mes auditeurs ne me croiront pas objective, mais je trouve ça pour le moins gonflé. C'est-à-dire, après avoir dit « salauds de médecins qui n'ont pas le droit de prescrire l'hydroxychloroquine », lui, il est malade, et puis son médecin lui dit « bah écoutez, finalement, je suis pas si sûr que ça, marche, puis dans votre cas, franchement, c'est pas une bonne idée ». Mais c'est pas le professeur Raoult, visiblement, qui le lui a déconseillé. C'est bel et bien son propre médecin. Allô ?
Oui, mais c'est complètement irrationnel ce type de réaction.
Pourquoi ?
Ça me paraît normal.
Bonjour tout Sophie.
Bonjour Valérie. Tout ce qui est médical comme ça est tellement irrationnel. Moi, je suis entièrement pour les vaccins en général, très pour le vaccin contre la Covid, puis je vais attendre que les autres se fassent vacciner. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ce que tout le monde dit. Non, mais Régis, vous qui tressez des lauriers à Michel Onfray, expliquez-moi un petit peu ce revirement.
Je tresse des lauriers sur ses qualités. Je trouve ce texte très beau. J'ai bien aimé, c'est un beau morceau de littérature. Je l'avais reçu avant, hein, privilège de ma collaboration. Mais voilà, sur ce côté hydroxychloroquine, il y a effectivement, moi j'avais essayé de suivre un petit peu parce que j'ai aucune envie de l'attraper, surtout quand on a lu le texte de Michel, je pense que c'est une épreuve. Et puis il y a des gens dans mon entourage. Non, je pense que effectivement, il y avait une réelle et grosse contre-indication. C'est pas quelqu'un qui a une santé extraordinaire, notre ami Michel. Moi, je suis en désaccord sur plein de choses avec Michel Onfray. Hein. C'est ça qui nous empêche pas de l'amitié et de travailler ensemble. Non, je pense que c'est tellement plein d'incertitudes, cette période, sur le vaccin. Moi, j'ai entendu le monsieur vaccin nous exposer ça. Et puis, là, Pascal Pro a été assez drôle à ce moment-là. Il dit, moi, j'ai entendu le monsieur vaccin, conférence de presse avec Castex. Moi, je me vaccine pas. Moi, j'étais prêt, hein. J'étais prêt à y aller parce que je me dis, après j'ai aucune envie de l'attraper. Et puis alors là, je sais pas tout ça. Et puis j'ai vu la première ministre, je crois que c'est ça, de Nouvelle-Zélande, dire regardez, je me fais vacciner, mais ils ont mal filmé et en fait c'est bidon parce que le cache de l'aiguille n'a pas été enlevé, donc on fait semblant de l'injecter. C'est quand même bon. Voilà.
Mais bon, je crois. Je ne peux pas croire qu'ils vont vacciner la reine d'Angleterre et le prince Philippe qui a 99 ans. Parce que sinon, c'est un suicide. Enfin,
mais 99 ans. Enfin, les vaccins n'ont jamais tué personne, que je sache.
Non, mais là, c'est.
Non, bien sûr que non. Mais ils font un recul, Valérie. Je veux dire, moi, j'ai entendu monsieur Vaccin aussi. J'étais dans la même position. Il était très embêté. On a à peine l'autorisation. Quel retour. Je ne veux pas du tout dissuader les gens de se faire vacciner. Ouais. Je pense que commencer par des personnes âgées, très fragiles, où il y en a qui n'ont même pas le droit de prendre une aspirine. Enfin, je veux dire, je trouve ça curieux et ça m'a beaucoup amusé qu'on dise que la reine d'Angleterre et le prince Philippe aient donné l'exemple.
C'est vrai. Allez, vous réagirez, Arnaud Benedetti et puis Frédéric également. Dans un instant, on marque une petite pause de pub et on se retrouve à 11h pour débattre et commenter l'actualité. 0826 300 300. On est avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Évidemment, ce qu'on a évoqué à propos de Michel Onfray et de Didier Raoult fait réagir. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux? La question, elle est vite posée, comme on dit, hein, avec le vaccin. C'est paru chez Humain Science. Et Frédéric Dabi, général adjoint, de l'IFOP. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On me dit effectivement que je suis de mauvaise foi à propos du professeur Raoult sur le fait qu'il avait toujours dit qu'il y avait des problèmes, quand on était cardiaque. Sauf que je vois également d'autres personnes qui disent mais il y a quand même ce passage où Michel Onfray dit « Pour l'heure, je n'ai pas envie de mourir en martyr » et il dit que ce médicament n'a pour l'instant pas fait ses preuves. On ne sait finalement pas si elle soigne ou non. Donc je trouve que c'est quand même un revirement de situation pour le moins étonnant de la part de Michel Onfray, parce qu'au-delà de son cas général, il dit « Ça n'a jamais fait ses preuves ».
Oui, mais attendez, je vais à nouveau prendre la défense de Michel. Ce qu'il a dit, il a soutenu Raoult, je crois sur des bases qui étaient des bases un peu politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu le rejet parisien, etc. Il y a eu toutes ces polémiques, et c'était plutôt sur ces bases-là. Moi, il a critiqué un des livres de Didier Raoult. Il a jamais été, si vous voulez, il n'en a pas les compétences et il le reconnaît très bien, un militant de l'hydroxychloroquine. Ce qu'il n'aimait pas, c'est la façon dont il a été diabolisé. Voilà, à tort ou à raison d'ailleurs cette diabolisation. Je voudrais ajouter une petite chose personnelle. Moi, je suis toujours candidat à la vaccination. Hein. Je voulais y aller tout de suite, hein, jouer les cobayes pour avoir un peu de gloriole, on ne sait jamais, hein, en récupérer. Mais c'est vrai que la communication n'est pas extraordinaire quand même, hein, y compris que dans le même temps, vous avez la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire que j'invite à consulter, hein, le JDD l'a mis en ligne. C'est impressionnant, hein, les erreurs qui ont été commises. Donc, on ne peut pas reprocher aux gens de tâtonner et de ne pas avoir d'avis définitif et tranché sur tout. Hein. Ouais. En tout cas, moi, je me fais vacciner, je le répète.
Moi, je trouve ça que le plus de parole, que le monsieur vaccin soit nuancé et dise la vérité, moi, je ne vais pas lui jeter la pierre. Il n'est pas là pour...
Non,
tout à fait. Oui, c'est un...
Il n'est pas là pour dire « Ouais, youpi, c'est super ». Il a essayé de dire la vérité. Il est vrai qu'on n'a pas de retour, forcément. sur ce vaccin, qu'on hésite encore, etc. Il le dit. Moi, je trouve ça bien. C'est le simple bon sens et la vérité de savoir que quand un vaccin vient d'avoir l'autorisation sur le marché et qu'il a été créé à toute allure et qu'il vient d'arriver alors qu'on sait que les vaccins, il y a un retour de plusieurs années… C'est pas évident.
On va en reparler. On va continuer notre petit tour de table. Frédéric Dabi, un coup de gueule émotionnel.
Ah non. Émotion, non. C'est pas. Il n'y a pas du tout d'émotion, ma chère Valérie. C'est pas un coup de gueule. C'est un constat sur le retour de balancier que je trouve trop violent sur les années, sur le bilan des années Giscard. On est passé. Ouais. D'un silence absolu à une hagiographie que je trouve gênante. Silence absolu qui se comprend très bien après la défaite de Giscard d'Estaing en 81 et la gauche où on disait qu'on était passé de la nuit à la lumière et la droite gaulliste avait tout intérêt pour fermer la page Giscard, de ne pas mettre en avant son bilan. Et le bilan des années Giscard est ne garder que les choses anecdotiques comme le président monarque, autoritaire, les diamants, etc. Là, et c'est normal après la mort de l'ancien... président, il y a une sorte de réhabilitation que je comprends très bien, même si la géographie me gêne. On met en avant toutes ces réformes économiques, ces réformes libérales, ces réformes de société. Ouais. Mais il y a quand même des angles morts qu'on n'évoque absolument pas. Le tournant sécuritaire, son attitude très singulière sur la peine de mort. Hein. Il disait en 1974 avoir une aversion totale pour la peine de mort. Il a laissé guillotiner trois condamnés. Je ne juge pas l'acte, mais voilà, il a toujours dit qu'il n'aurait pas aboli la peine de mort en 80. Toute une série de choses où, dans l'audiovisuel, ce n'était pas facile d'être journaliste de gauche sous les années Giscard. Je sais que ça va peut-être faire réagir. Voilà, je veux mettre en avant le fait qu'il y a des angles morts et des silences. Et de manière un peu trop raide, on est passé donc d'un bilan méconnu à une hagiographie gênante.
Enfin, Frédéric, c'est n'importe quoi. Ça a été... Président. Et quand on voit,
mais je viens de le dire, Sophie.
Mais pourquoi c'est n'importe quoi ? Qu'est-ce qui est n'importe quoi ?
Il dit que on a passé sous silence des trucs qui étaient pas bien. Ce qu'il a évoqué était, je veux dire qu'il avait une aversion pour la peine de mort. Ok, personne jusqu'à lui, et il a gracié tous les gens qui, parce qu'une peine de mort, ça allait au président de la République. Oui, il a gracié absolument tous les condamnés.
Non, c'est faux, c'est faux, c'est
non. Il en a
gracié 500. Il y a eu des condamnés à mort qui ont été exécutés.
Il y a eu trois, dont un pour lequel la question de la culpabilité se pose, Christian Ranucci.
De grâce.
Sophie, on s'est mal. Je ne mets pas en cause son bilan. Dis que passer du noir absolu au bilan étincelant est gênant. Il y a un droit d'inventaire qui s'impose.
Alors, Arnaud Benedetti.
Non. Comment on a pu faire ?
Si.
Alors, attends, est-ce que Sophie, vous pouvez laisser parler Arnaud Benedetti deux secondes ?
Non, moi, je n'ai pas senti. Je suis plus nuancé. C'est-à-dire que je n'ai pas senti quand même qu'il y avait une volonté. De réhabilitation tout azimut du bilan de Valéry Giscard d'Estaing. Moi, je trouve qu'on a été beaucoup plus hagiographique lors du décès de Jacques Chirac que de celui de Valéry Giscard d'Estaing. Et la réalité, c'est que finalement, quand on regarde sur le fond, les années Giscard ont été peut-être beaucoup plus structurantes pour la société française dans différents aspects que les années Jacques Chirac. Sauf que, bon, Jacques Chirac bénéficiait d'une popularité dont Valéry Giscard d'Estaing ne bénéficiait pas. Moi, je crois quand même qu'il y a quelque chose d'important dans le bilan de Valéry Giscard d'Estaing. C'est, en effet, ça a été largement souligné. Alors, d'ailleurs, ça peut être discuté et contesté même. C'est la façon dont il a banalisé la fonction présidentielle, en tout cas au tout début du mandat, en l'occurrence. C'est quelqu'un qui a, on l'a répété mille fois, voulu moderniser la façon d'être du président de la République, prenant sur ses épaules les évolutions de la société des années 60 et des années 70. Mais, et on comprend bien ce qu'il voulait faire, parce que finalement, le problème de Giscard, c'est qu'il n'avait plus confiance dans la France et qu'il considérait que la France était devenue une puissance moyenne. À partir du moment où il considérait que la France était devenue une puissance moyenne, ben il considérait également que le rôle de ce monarque républicain qui était le président de la République sous la Ve République, et ben il devait avoir un comportement qui devait être un peu plus normalisé, un peu plus banalisé. Donc, il avait une logique politique qui me semble assez claire. Par contre, on peut discuter en effet ensuite de sa politique et d'un certain nombre de mesures qu'il a pu prendre durant son septennat. Bon, il y a une question sur laquelle on ne revient pas, qui est quand même une question aujourd'hui, qui est quand même au cœur de plusieurs débats de la société française, et je remarque qu'on n'en a pratiquement pas parlé, c'est la question du regroupement familial.
Oui. Ah si, on en a parlé quand même, on en a parlé.
Oui, mais assez peu, effectivement. Que,
d'ailleurs, regroupement familial dont il n'est pas d'ailleurs... Il en est responsable, mais pas tout à fait. Il en est responsable
c'est
parce
pas que
lui qui l'a initié. En 1977, Raymond Barre, qui devient Premier ministre, décide de suspendre le regroupement familial, et c'est suite au recours d'un certain nombre d'associations que le Conseil d'État le rétablit. Mais sur le fond, moi, je n'ai pas trouvé que les commentaires sur, après le décès de l'ancien président étaient véritablement aussi hagiographiques que Frédéric le dit.
Non, mais on s'est peut-être mal compris. Ce que je veux dire par là, avant la mort de Mitterrand, la connaissance par les Français de son bilan était connue. Peine de mort, radio libre, cinquième semaine, 60 ans pour la retraite, RMI, etc. Chirac, c'était à peu près la même chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on a redécouvert le bilan de Giscard d'Estaing. D'ailleurs, quand il y a eu l'anniversaire de la loi Veil, on a beaucoup parlé de Simone Veil, ce qui est normal.
Beaucoup parlé de
Jacques Chirac. C'est ce décalage que je veux mettre en avant. Peut-être qu'Arnaud a géographie et fort, mais c'est ce fait que on est passé du rien à un tout. Voilà, c'est ce qui était assez intéressant. D'accord. Maintenant, bien sûr, tout est affaire de nuances.
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant et vous aurez votre coup de cœur ou coup de gueule, Sophie, je ne sais pas, nous allons le découvrir dans un instant. On parlera évidemment de ce qui s'est passé à Paris, de ces affrontements. On parlera également du président de la République qui s'est exprimé sur Brut. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il a convaincu? Est-ce qu'il peut convaincre les jeunes en parlant sur un média comme celui-là? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avant d'aborder les manifestations de ce week-end, les Black Blocs, de reparler éventuellement des vaccins. Sophie, vous aviez un coup de cœur, un coup de gueule?
Oui, absolument. J'ai eu, figurez-vous, un coup de gueule, vous vous souvenez Valérie, d'ailleurs ça avait pas mal réagi, sur le fait qu'on voulait supprimer l'enseignement à distance et les entreprises privées telles le cours Atmer, le cours Legendre, etc., au nom de l'islamisme et de familles qui gardaient leurs enfants en les éduquant et sans les mettre dans les écoles de la République. Et là, je vois que, évidemment, le président écoute Sud Radio, c'est pour ça d'ailleurs, mais qu'il est revenu dessus dans son, je ne sais plus dans quel discours, il y a 2-3 jours, il est revenu dessus en disant non, maintenant on pourra, il y aura des exceptions, il faudra prouver qu'on n'est pas radicalisé, et là, les enfants auront le droit de suivre un enseignement à distance. La liberté à mon avis, d'éduquer ses enfants revient totalement aux parents, donc c'est un bon geste. Mais mon vrai coup de gueule, c'est qu'on ne peut pas continuer à lancer des vagues ballons d'essai ou alors affirmer des décisions irrévocables d'un ton convaincu et revenir dessus. C'est juste pas possible. Et ces techniques de gouvernement qui ne sont pas d'ailleurs forcément le propre de Macron, bien qu'il ait un certain en même temps, régisse sa parole, c'était déjà le cas. La théorie du ballon d'essai ou la technique du ballon d'essai, elle a été de tous les gouvernements. On balance un truc, on voit comment ça retombe dans la rue, puis on revient dessus. Et c'est juste pas supportable, ça décrédibilise le gouvernement, on n'a plus confiance en rien. Et là, il vaut mieux revenir sur quelque chose qui est une erreur que de ne pas le faire. Mais là, l'histoire de ces écoles est typique. En 3 jours, on a dit c'est interdit, il n'y aura plus d'enseignement, tous les enfants doivent aller en classe. Puis on va revenir aussi sur l'obligation de mettre les enfants en classe à 3 ans. Donc, je pense que ces revirements sont bons. Je trouve dramatique cette situation. Est-ce que personne n'est capable de réfléchir avec bon sens au gouvernement avant de balancer des décisions caricaturales? Et c'est insoutenable. Il faut nommer un ministre du bon sens.
Un ministre du bon sens, oui, mais normalement, ça devrait être le Premier ministre, non?
Mais moi, je crois que c'était pas un ballon d'essai. Je pense que c'était pas. Moi, je pense pas que ce soit un ballon d'essai, sauf que je crois qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un risque, d'anticonstitutionnalité de leurs mesures, en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils font marche arrière. Je crois que c'est ça.
Enfin, ils pourraient y penser avant, non, Arnaud Benedetti?
Problème, c'est-à-dire que c'est pas un ballon d'essai, c'est pas. Si vous voulez, c'est pas une recherche de communication politique, en l'occurrence. Là, c'est pour le problème, c'est une forme d'amateurisme, en effet. Je suis d'accord.
Oui, c'est une forme d'amateurisme. Régis, un mot là-dessus.
Ils font ça toute la journée.
Oui.
Juste, je pense que c'est une façon de gérer qui leur est propre, quoi. C'est-à-dire que le mot qui convient et qui saute à l'esprit, c'est l'amateurisme. Alors, il y a des pensées de fond, il y a souvent des arrière-pensées, mais voilà, quoi. Je veux dire.
Et la trouille, peut-être, du Conseil d'État, Frédéric et Dabi, comment.
Oui, je partage ce que vient de dire Sophie. C'est vrai que la technique du ballon DSS a été faite par le passé, mais je trouve que ça devient quasi systématique pour ce gouvernement. Ça a souvent des effets dévastateurs. On le voit dans nos enquêtes qualitatives où il y a un lien entre la perte d'autorité du gouvernement et d'Emmanuel Macron et le sentiment que le cap qu'on voyait bien au début du quinquennat tend à s'effilocher un petit peu. Donc, c'est des choses relativement gênantes et ça donne le sentiment d'une absence de maîtrise. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, vous avez vu, Valérie, que Jean Castex a perdu avec la séquence office religieux, station de ski, 7-8 points sur « dirige bien l'action de son gouvernement » qui induit ce sentiment de maîtrise.
Ouais. Donc, manque de maîtrise.
Je voudrais rajouter sur l'amateurisme.
Régis de Castelnau.
Je veux dire, regardez ce qui s'est produit. Je vais prendre deux tout petits exemples. Après le problème de l'article 24 et de la loi de sécurité globale, on nous annonce, et je suis désolé, on nous l'annonce après un entretien entre Darmanin et Macron, et pour moi, c'est une idée de Macron, ça caractérise sa culture administrative plutôt que politique, on nous annonce une commission destinée à réécrire la loi. Enfin, je veux dire, faut pas avoir trois sous de culture républicaine pour ne pas penser qu'il va y avoir, évidemment, une levée de bouclier et un tollé. Là, sur le vaccin, on y revient, ma chère Sophie. Sur le vaccin, on nous annonce un groupe de citoyens tirés au sort qui va étudier cette question du vaccin. Mais attendez, je croyais qu'il y avait un comité scientifique, comité de défense, et surtout, il y a un président de la République et un Premier ministre. Alors, attendez,
sur le projet de loi sécurité globale, ils n'en sont pas à une seule expression d'amateurisme, parce qu'il y a aussi le moment où Christophe Castaner, président du groupe parlementaire, vient nous dire, alors que la loi est passé déjà, le projet de loi est passé déjà au Sénat, que la majorité va réécrire l'article 24.
Ouais.
Donc, on a en effet des exemples multiples et variés de cette espèce de négligence ou d'amateurisme, je ne sais pas comment il faut la qualifier, qui caractérise le fonctionnement de cette majorité. Le problème, c'est que ça a été revendiqué comme un élément de fraîcheur au début, mais maintenant, ça apparaît de manière assez régulière comme des dysfonctionnements qui sont, en effet, je rejoins ce que dit Frédéric Dabi, tout à fait nocif pour la bonne compréhension de l'action de l'exécutif.
Oui, Frédéric Dabi, pourtant, le président enregistre dans vos sondages, alors je sais que certain nombre de nos auditeurs ne croient pas au sondage, mais enregistre un certain nombre de bonnes opinions.
Non, ce qui est très très intéressant, et on diffusera ce soir, donc je peux pas vous le donner, le baromètre fiducial sur les personnalités, mais on a un socle de popularité présidentielle qui bouge très peu, et là c'est un vrai élément de rupture par rapport aux prédécesseurs. En gros, ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron a ce socle de 40%, parce que ses segments forts, les personnes âgées, ce que j'appelle la Sainte Alliance En Marche LR, tient bien le choc. Et c'est vrai qu'il y a une vraie nouveauté par rapport à l'époque Édouard Philippe, c'est qu'il a un fusible, c'est qu'il a un pare-choc, en l'occurrence Jean Castex. On n'avait pas vu un couple président-premier ministre fusible depuis Chirac-Raffarin en 2002.
Ouais. On va parler des manifestations de ce week-end, des casseurs, des black blocs, de toutes ces violences qui ont émaillé les manifestations. On va devoir marquer une pause. Moi, j'en veux aux chaînes d'info. Je pense qu'elles sont responsables, non pas de montrer l'information, elles doivent montrer cela, mais de rester en caméra fixe toute l'après-midi sur une voiture qui brûle, sur un barrage qui brûle, et de ne pas montrer des manifestants qui étaient un petit peu partout en France et qui manifestaient relativement pacifiquement. Je pense que ça contribue, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être Arnaud Benedetti, à justement accentuer cet état de chaos. Arnaud, peut-être ? un mot rapidement.
C'est vrai que bon, le point de vue en général des médias, c'est de montrer que les trains n'arrivent pas à l'heure. Hein. C'est un vieux classique en l'occurrence. Donc ces images qui sont spectaculaires viennent en effet renforcer ce sentiment de chaos et d'impuissance de l'État. En même temps, c'est une réalité.
Je suis d'accord avec vous.
On peut pas l'écarter. C'est que c'est vrai que maintenant, systématiquement, ça a commencé avec le mouvement des Gilets jaunes, puis ensuite avec les manifestations contre le projet de loi sur les retraites, et puis aujourd'hui, dans les manifestations contre le projet de loi de sécurité globale, on a ces groupes de Black Bloc qui s'infiltrent dans les cortèges, qui les instrumentalisent, et qui commettent un certain nombre de débordements qui sont d'ailleurs profondément, j'allais dire, nocifs pour les manifestants pour la plupart, essayent de manifester pacifiquement. Mais la question quand même qu'il faut se poser, c'est que ce phénomène aujourd'hui de violence dans les manifestations, il est quand même assez spécifique à la France, en l'occurrence. Ouais. Parce qu'on voit quand même que les Allemands ont réglé le problème des Black Blocs, on se souvient que les Britanniques avaient des problèmes de hooliganisme qu'ils ont réussi à résoudre. En France, on n'y arrive pas. C'est quand même la vraie question qu'il faut se poser, parce qu'on connaît en plus, attendez, moi ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on connaît le profil parfois sociologique de ces Black Blocs. Hein. On connaît le profil sociologique de ces Black Blocs. Donc, si on connaît le profil sociologique de ces Black Blocs, c'est qu'on est capable, on devrait être capable et en mesure de les identifier. La difficulté, c'est que à chaque manifestation, on les voit réapparaître.
Eh oui. Allez, on va se poser la question. On va y revenir. On est obligé de marquer une pause. On apprend à l'instant que le salon de l'aéronautique n'aura pas lieu cette année. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Oui, donc le salon du Bourget a été annulé, on vient juste de l'apprendre, l'aéronautique est le secteur qui inquiète le plus les États, c'est la sidérurgie de 2020, donc arrêt de donc pas de salon du Bourget cette année. Nous parlions donc de ces Black Blocs, vous évoquiez leur sociologie, Arnaud Benedetti, on apprend que parmi les 22 interpellés, il y aurait des fils de bonne famille, un fils de directeur financier, un autre qui gagne 4 500 €. En tout cas, la question qu'on se pose, c'est comment à 500, ils arrivent à foutre un tel bordel, j'ai pas d'autres mots, et comment est-ce qu'on ne peut pas les arrêter ? Les policiers disent qu'ils savent qui ils sont. Moi, je prends l'exemple de la Banque Populaire qui a été saccagée. Donc, le temps de saccager une banque, quand même, il faut péter les vitres, rentrer, sortir les ordinateurs, sortir les papiers. Et il n'y a pas de policiers dans le coin pour faire ça, alors qu'il y a des feux partout. Je ne sais pas comment on peut répondre. Alors, c'est Régis, je crois, qui voulait prendre la parole.
Alors oui, je voulais dire que ce n'est pas un phénomène nouveau.
Non.
Arnaud, les conséquences, alors que peut-être ça donne l'image de l'impuissance de l'État, mais surtout, ça remobilise les gens et ça sert le pouvoir parce que ça disqualifie les manifestations, ça pousse les gens à souhaiter qu'il n'y en ait plus et à les interdire, etc. Mais c'est une vieille histoire. Enfin,
voyez, donc l'idée derrière ce que vous
moi,
dites,
je pense que,
c'est
je pense que
c'est
que
de la provoque de l'État.
Mais je pense que le pouvoir laisse faire. Écoutez, aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose, hein, on n'est pas capable. Ils sont identifiés. Linda Kebab a dit, l'État laisse faire. Elle est policière jusqu'à nouvel ordre. Non. Moi, je suis désolé, je me rappelle. Alors, auparavant, il y avait un facteur qui permettait d'éviter, encore que, hein, la grande manifestation des sidérurgistes de mars 79, hein, qui avait débouché sur effectivement des débordements considérables, où la CGT avait réussi à arrêter des casseurs qui se sont révélés être des policiers. Excusez-moi, c'est arrivé, hein, et donc avec toutes les preuves. Bon, à l'époque, j'avais travaillé avec la CGT sur le problème. Non.
Eh ben, quel scoop ?
Ben, oui, non, c'est pas un scoop, mais si vous voulez. Non, mais...
Si vous voulez, j'avais même écrit un bouquin.
Non, mais je connu.
Il s'appelait La Provocation. C'était très bien. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'à l'époque, il y avait des services d'ordre. Il n'y en a plus du tout. Même en 86, vous vous rappelez, au moment de la mort de Malik Oussekine, même les lycéens, les étudiants avaient des services d'ordre qui pouvaient contenir tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Hein. Je veux dire, il y a une espèce de déconstruction du système classique de l'expression par les manifestations, qui est la manifestation étant une liberté constitutionnelle. Hein, et je pense aujourd'hui qu'après avoir été mis en difficulté avec la loi de sécurité globale, qui a remobilisé la gauche, un peu une espèce de divine surprise pour ces gens-là, hein, toujours est-il que je pense que le fait de laisser et le suivi des médias, évidemment, c'est plus intéressant de montrer la bagarre que de montrer une manifestation paisible. Hein. Donc non, je crois que là, c'est un phénomène très directement politique et que l'État…
Donc vous dites que c'est organisé, alors qu'il y a eu des manifestations…
Non, je dis que l'État laisse faire.
Sophie.
Je voulais dire deux choses. Vous avez dit d'abord au début que les manifestants, il fallait les montrer tranquillement, etc. Je suis tout à fait d'accord avec Valérie sur le rôle des chaînes d'info. Ça m'a coûté très cher de le dire d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je veux dire que les manifestants… sont pas complices de ça, mais moi je trouve qu'ils laissent faire, ils pourraient réagir, ils ont l'air assez indifférents. Je me demande, dans certains cas, on a presque l'impression que les manifestants sont contents parce que ça rajoute du poids à leur manifestation. Je fais très attention en disant ça parce que c'est évidemment pas le cas de la majorité. Mais ensuite, enfin,
franchement, Sophie, vous seriez dans une manif avec des Black Blocs, vous iriez leur dire s'il vous plaît, ce n'est pas bien de jeter des cailloux.
Que je dirais, regardez celui-là, faites quelque chose, et je m'en irais. Je suis désolée. On est responsable de soi-même et de l'endroit où on est. On n'est jamais responsable de rien. Et deuxièmement,
si vous êtes obligé d'aller dire au flic, regardez ce qui se passe, ça veut dire que le flic il fait pas son boulot non plus.
Enfin, ah oui, j'aimerais le dire. Si c'était moi, j'irais le dire. Alors je me ferais peut-être casser la gueule, mais j'irais le dire. Ensuite de ça, on dit que c'est un droit constitutionnel. La réponse est oui. Moi, franchement, le samedi avant Noël, quand on voit ce qu'ont souffert les commerçants, lorsqu'on voit l'état du pays, où on nous empêche de boire un café à la terrasse des restaurants, eh ben non, c'est tout à fait autorisé de faire des manifestations. Je pense que le préfet de Paris aurait dû interdire cette manifestation. Il y a un moment où la liberté…
Il a tenté de le faire la semaine dernière.
Il a tenté de le faire, Sophie.
Excuse-moi, Sophie.
Il a essayé de le faire.
Je t'interromps. Oui,
Frédéric.
Non, c'est une simple interruption et je m'en excuse. Il a tenté de le faire, pas ce samedi, mais pour la manifestation de samedi dernier, samedi il y a 10 jours, et il a été, ça a été retoqué.
Retoqué par qui?
Par le conseil.
Le tribunal
administratif. Le tribunal administratif.
Oui. Et ensuite de ça, oui, la réponse est oui. Eh ben, il n'y a qu'à interdire les manifestations qui ne sont pas encadrées par des services d'ordre. Et des syndicats. On sait très bien que la CGT faisait très bien le boulot, même si elle manifestait trop à mon goût. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité collective. On est un pays où on ne peut rien faire sans faire une manif. C'est maintenant tous les samedis, c'est insupportable. On est dans un état de droit, ce n'est plus un état de droit. Et quant à tous vos commentaires sur « on sait qui sont les Black Blocs », je veux dire, tous les Français finissent par le penser, et je suis d'accord, j'y connais rien, mais franchement, ça me paraît hallucinant qu'on ne puisse pas les arrêter. Et alors, je ne suis pas dans la théorie du complot, et je ne vois quand même pas les flics en train d'être eux-mêmes infiltrant ces manifs pour taper sur d'autres flics, mais effectivement, nous ne sommes plus dans un état de droit, et ça va finir très mal, parce qu'il y a une majorité silencieuse qui en a ras-le-bol, qui est prête à tout pour que ça s'arrête.
Alors, Frédéric Dabi, sur l'opinion des Français, parce que je vois un auditeur, notre fidèle Xavier, qui tous les jours commente, dit mais il y a plein de villes dans lesquelles ça s'est très bien passé, dans lesquelles il n'y a pas eu de cas, dans lesquelles il n'y a pas eu il y a que Paris et deux ou trois grandes villes de province, mais à Perpignan, toutes les manifs se déroulent sans incident, jamais. Donc c'est vrai que Paris, c'est symbolique, mais
il y a un effet de loupe sur Paris et comme l'a très bien dit, je crois, Sophie, sur les chaînes d'info qui créent cet effet de loupe. Nous, ce qu'on voit dans nos enquêtes, alors c'est difficile d'identifier et mesurer le bruit et la quantité de cette majorité silencieuse, mais elle est là. Vous m'interrogiez tout à l'heure, Valérie, sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Il a un électorat âgé, attaché à l'ordre et à la sécurité, comme dit la chanson, qui ne le voit que comme le seul rempart dans ce contexte particulièrement troublant et troublé. On a aussi, il faut le dire, on verra dans comment ça va se... On fera une nouvelle enquête peut-être dans quelques jours, mais il s'est passé aussi quelque chose de très fort sur l'image de la police après l'affaire Michel Zecler, où nous, on a reposé notre question sur l'image de la police et il y a eu une rupture d'opinion en moins d'une semaine que je n'avais pas vue. Toute proportion gardée, s'agissant de la justice pour l'affaire Doutreau. C'est vrai que ça a quand même très fortement secoué cette onde de choc dans le pays. Mais c'est clair que cette image des Black Blocs, semaine après semaine, le sentiment qu'on ne peut pas les canaliser, les neutraliser, ça, c'est un poison lent catastrophique pour l'exécutif.
Alors, Bruno Retailleau proposait des brigades anti-Black Blocs. Alors, est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est une chose possible?
Je sais pas, enfin, peut-être, oui, c'est peut-être, j'en sais rien. Moi, j'ai aucune compétence en matière de maintien de l'ordre public, en l'occurrence, donc je ne me permettrai pas de commenter la proposition du sénateur Retailleau. Mais il y a un autre aspect, si vous voulez, qui me paraît important. Pour rebondir sur ce que disait Sophie, en effet, il y a un problème aujourd'hui de vis-à-vis de l'état de droit, mais la réalité, c'est que d'abord, le calendrier politique qui a été choisi par l'exécutif pour finalement défendre ce texte est un calendrier qui me paraît totalement inapproprié. Pour une raison simple, c'est que vous êtes aujourd'hui dans un contexte urgence sanitaire oblige, où vous contraignez toujours plus les Français en matière de liberté de circulation, en matière de liberté de commerce également. Quand un café ou un restaurant ne peut pas ouvrir, tout simplement, on entrave sa liberté de travailler, donc de liberté d'entreprendre. En même temps, vous rajoutez une loi qui va paraître à d'autres segments de la population comme une loi liberticide. Donc, vous instaurez de toute façon le sentiment, à tort ou à raison, que vous êtes aujourd'hui confronté à une dérive autoritaire du pouvoir. Donc, je pense que politiquement, ça a été une erreur de la part de l'exécutif de rajouter ce dispositif législatif dans le contexte dans lequel nous traversons. Il y a un deuxième sujet qui rejoint les autres, qui rejoint même le premier, c'est que vous avez là le sentiment d'un État qui n'est pas capable de mettre hors d'état de nuire quelques centaines de Black Blocs, mais qui par contre n'a aucune difficulté pour vous contraindre, vous, en tant que citoyen paisible, dans votre liberté de circuler, dans votre liberté de commercer, dans votre liberté d'entreprendre. Donc vous avez à la fois l'image d'un État qui se veut tout puissant pour régenter l'ordre personnel et l'ordre domestique.
Ah, ça coupe. Ah,
ça coupe un petit peu.
Ouais, ça, d'un État, vous disiez, d'un État. Ah, on ne vous entend pas. Bon, vous savez quoi, on va...
Entre nous, mais qui est tout puissant lorsque...
Ah, non, on a un problème de liaison avec vous.
C'est revenu.
Allez-y.
Moi, je vous entends à nouveau.
Allez-y.
Non, je disais que vous avez en fait un sentiment entre d'un côté un État qui veut régenter votre ordre personnel, votre ordre privé, votre ordre domestique, justement pour gérer la crise sanitaire, et un État qui est impuissant sur ses missions régaliennes, et dont une des principales missions étant en effet de permettre...
Ça coupe un petit peu. On a un auditeur avec nous. On va essayer de rétablir la liaison. On a Alexandre qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour. Écoutez, oui. Je voulais vous dire quelque chose, que vous compreniez quelque chose à propos des manifestations. J'ai fait partie des premiers Gilets jaunes. J'ai été l'un des tout premiers à parler du référendum parce que j'ai vécu longtemps en Suisse. J'ai modéré aussi des groupes de Gilets jaunes sur Facebook. Est-ce que j'ai vu, je vous avoue que ça m'a fait peur.
Pourquoi ça coupe, propos...
hein. Oui. Propos... Oui, oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Allez-y.
Mais à propos des manifestations, il faut comprendre quelque chose. Hein. Manifester la fleur au fusil ou la petite fleur au côté de la bouche, ça n'apporte rien du tout. Sous Hollande, il y a eu des manifestations avec plus d'un million de personnes dans la rue. Ça n'a changé rien du tout. C'est celui qui a la plus forte contrainte.
Vous m'entendez là ou pas?
Toujours.
Oui, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il n'y a que la violence qui puisse faire bouger les choses?
Quel que soit le type de violence, il faut une contrainte, une très forte contrainte. La technologie d'aujourd'hui, je connais bien, c'est mon domaine depuis très longtemps, l'informatique et la technologie, elle permettrait d'identifier et d'arrêter tous les Black Blocs. Les policiers, les CRS, les gendarmes mobiles n'interviennent que si on leur demande d'intervenir. Ils font que ce qu'on leur demande. Tous les manifestants qui sont autour et qui ne bougent pas, d'une manière ou d'une autre, sont complices. S'ils s'écartaient d'eux-mêmes, ce que moi je ferais, peut-être que la gendarmerie ou les CRS, ils interviendraient. Maintenant, moi, même si j'ai été gilet jaune, si j'étais CRS ou gendarme, est responsable, je demanderais d'intervenir. Même avec des participants, ils n'ont qu'à assumer le fait qu'ils soient là.
Absolument.
Merci de votre témoignage, Alexandre. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. On va revenir sur l'une des annonces faites par Emmanuel Macron à propos des policiers, à propos du contrôle au faciès. Cela met les policiers très en colère. On en parle avec vous dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercov, vous le savez. Le président de la République a dit un certain nombre de choses face aux intervieweurs de Brut. Il y avait, paraît-il, beaucoup de jeunes qui l'ont regardé. On pourra en dire un mot. Il a évoqué les contrôles, enfin, ont été évoquées parmi les questions qui lui ont été posées, beaucoup de questions autour du contrôle au faciès. Donc il a annoncé vouloir créer une plateforme de signalement pour pouvoir dénoncer les discriminations. Les gens pourront y dire en quoi ils sont discriminés et où a donc expliqué le président de la République. Il a dit aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. On est identifié comme un facteur de problème et c'est absolument insoutenable. Réponse à cela. Les principaux syndicats de gardiens de la paix, Unité SGP et Alliance ont protesté samedi et ils ont appelé à une grève des contrôles d'identité. Frédéric Dabi, peut-être vous poser la question à vous. Les statistiques ethniques sont interdites. Vous m'entendez ?
On ne l'entend plus.
Bah, donc, oui, Sophie, je crois que vous vouliez réagir.
Allô, vous m'entendez ?
Frédéric.
Excusez-moi, j'ai mis mon micro en silencieux pour pas déranger tout à l'heure. Veuillez m'en excuser. Non, les statistiques ethniques sont interdites. En revanche, dans les cas d'enquête d'opinion, on n'a aucune difficulté et le droit de poser toutes sortes de questions pour cerner des groupes de la population différentes. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est clairement une réponse à un sentiment majoritaire chez les jeunes. C'était une enquête IFOP pour Marianne de la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, à 63% les jeunes de 18-30 ans considéraient qu'il y avait des violences policières. C'était une réalité et pas des faits marginaux. Il a peut-être été un petit peu trop loin et se retrouve maintenant en difficulté entre des jeunes qui vont trouver qu'il n'est pas allé assez loin et des syndicats de police qui sont très mécontents. On retrouve des mêmes ferments de mécontentement qu'on avait vu avant le départ de Christophe Castaner. Et puis, aussi, je le répète, l'émotion a été particulièrement forte après l'affaire Michel Zecler, mais cette émotion, dans le cadre de toutes ces manifestations violentes, pourrait aussi changer. On est dans un contexte jamais vu, et Arnaud Benedetti, je pense, le confirmera, où l'opinion publique s'est réseau-socialisée. Elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus changeante que par le passé.
Et je voudrais, en me tournant vers Frédéric d'ailleurs, pour lui demander ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il est venu faire chez Brut, Macron ? Il est venu faire de la politique, en campagne électorale. Hein ? Il avait dit…
Bien qu'il ait dit qu'il n'était pas sûr de se représenter.
Oui, alors c'est de la politique. Typiquement une phrase de campagne électorale.
Oui, les présidents l'ont fait, hein.
Il y a Bruno Le Maire qui est en train de nous dire faut absolument la loi sur les retraites, etc. Tu parles que c'est le moment, hein. Et Emmanuel Macron rassure une partie de ceux qui le soutiennent et qui veulent qu'il fasse les réformes. Je reviens sur Brut. Le Canard Enchaîné avait rapporté qu'il disait qu'il fallait pas se couper de la jeunesse. Hein. Et Frédéric, il s'est bien refait à droite après l'affaire Paty, le discours sur l'islam et surtout sur l'immigration. Je suppose, si vous le savez mieux que moi, que c'est ça qui a nourri cette espèce de montée. Hein. Et seulement, il a un risque politique, me semble-t-il. Hein. C'est comme ça que j'analyse toute cette série de phrases. Il a un risque politique qui serait moins que les jeunes ne votent pas pour lui en 2022, mais qu'une partie de la gauche s'abstienne en disant finalement on a fait castor en 2017 et les atteintes aux libertés publiques, le système liberticide, c'est Macron qui l'a mis en place. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu faire de la politique en s'adressant à une partie du fameux archipel, hein, ouais, et en disant à ceux-là ce qu'ils avaient envie d'entendre. C'est du Macron. Le problème, c'est qu'il
sauf qu'il n'y a pas que les jeunes qui écoutent
c'est un gloubi-goulba. C'est ce que je voulais dire. Les limites de l'exercice, c'est qu'il vient nous dire un jour, dans un état de droit, on ne peut pas parler de violence policière, et là, il parle de violence policière.
Oui,
c'est effectivement, ce genre de grands écarts, il faudrait qu'il fasse peut-être qu'il soit un peu plus dialectique. Enfin, ça, c'est ses affaires, c'est pas les miennes. Mais clairement, le choix des mots est directement politicien. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup. Donc, en discuter, j'ai un petit peu du mal à dire oui, c'est vrai qu'on contrôle aux faciès, ceux qui vont dire oui, mais regardez les proportions de délinquants dans ces populations, etc., etc. C'est pas, non, on a effectivement une segmentation dans la parole politique qui est, personnellement, profondément délétère.
Oui. Sophie, vous vouliez réagir sur ce sujet ?
Alors, d'abord, oui, c'est vrai, on n'a pas le droit aux statistiques, mais évidemment, on les a. C'est-à-dire que, en tant que réserviste dans la gendarmerie, j'ai communication, on sait très bien qui est dans les prisons. Et évidemment que c'est fait. Donc,
Éric Zemmour a été condamné pour avoir dit des choses comme ça. On ne peut pas dire, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc on ne peut pas. Choses comme ça, mais c'est plus sur le fond de ce que dit Emmanuel Macron qui effectivement avalise les violences policières d'une certaine manière.
Alors ça c'est une chose, justice. Moi je comprends très très bien que le syndicat Alliance dise écoutez on va arrêter les contrôles, je veux dire ça suffit de taper sur les flics, je veux dire c'est, il n'y a pas une seconde, je veux dire que ce soit les manifestations, les contrôles, etc., on les critique toute la journée, vous l'avez raison, ils obéissent aux ordres, et quand vous êtes en plus, alors j'ai interrogé effectivement parce que ça m'intéressait, c'est vrai que les jeunes vous diront que lorsqu'ils ont des copains basanés, etc., un blond aux yeux bleus, il se fait pas contrôler, et que leurs copains bronzés se font contrôler beaucoup plus. C'est vrai. Alors maintenant, les flics contrôlent qui ils veulent, ça dépend de l'endroit où on fait les contrôles aussi, parce qu'il y a des banlieues où effectivement, on a forcément des contrôles un peu spécifiques. On n'ose plus du tout parler parce que sinon les risques sont graves. Je pense que encore une fois, c'est pas le sujet des contrôles. Je veux dire, voilà, il veut faire plaisir à une population et là je suis d'accord parce que les policiers ont le droit de suivre leur instinct, de contrôler. De toute façon, on contrôle aux faciès, c'est pas uniquement d'ailleurs une question raciste. Ils vont contrôler plus les hommes que les femmes, ils vont contrôler beaucoup plus les jeunes. Ça, alors là, il y a un contrôle sur les jeunes qui est évident. Dès que en volant, vous avez moins de 25 ans, vous faites arrêter, mais 5 fois plus. Ouais. Donc, je pense que c'est très maladroit de la part du président de la République. Et quant à savoir s'il va se représenter, je crois que tous les Français s'en foutent pour l'instant. Et ça,
c'est pas notre sujet, mais c'est sur effectivement cette déclaration qui a allumé le feu du côté des syndicats. Arnaud Benedetti sur cette communication
brute. Le problème, c'est qu'il fait du marketing. Il est allé sur RUT d'abord pour se redonner une image de modernité. Ensuite, parce qu'il voulait parler, comme ça a été dit à plusieurs reprises, aux jeunes. Mais en fait, il a un problème avec la jeunesse, Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est assez surprenant, puisqu'il est quand même le plus jeune président de la Ve République. Mais il a un problème avec la jeunesse. Regardez le résultat du premier tour d'élection de 2017. Les jeunes ont voté, en tout cas, je pense, dans la tranche, je pars sous le contrôle de Frédéric, mais dans la tranche de 18-24 ans, ont voté beaucoup pour la France insoumise ou pour le Rassemblement national.
Je nuance un petit peu, mais...
Pardon ?
Non, je te laisse finir, mais je nuancerai un tout petit peu ces chiffres. Mais
il n'a pas l'électorat jeune acquis. Ça, c'est un sujet. Deuxième aspect, c'est qu'on voit bien qu'il veut donner des gages à tout le monde. Il veut donner des gages aux policiers, c'est ce qu'il a fait avec son ministre de l'Intérieur. Il veut donner des gages aux gens qui manifestent aujourd'hui contre le projet de loi de sécurité globale. Et voulant donner des gages à tout le monde, il finit par mécontenter tout le monde. Donc il est sur une ligne de crête qui parfois le rend totalement inaudible. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Bah oui. Mais finalement, tout ça finit par se voir, en l'occurrence, vous savez. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas isolément à chacun d'entre eux, et chacun entend ce qu'il dit aux autres. Donc la difficulté pour lui, c'est qu'il finit par avoir une communication politique qui, à force de vouloir embrasser tout le monde, son fameux en même temps, ben il a une communication politique qui devient totalement inaudible et qui finit par mécontenter tout le monde.
Oui, j'ai une petite question très courte pour Frédéric. Est-ce que cette espèce de virage à gauche, virage en direction des jeunes, n'est pas de nature à remettre en cause le virage à droite qui lui avait profité? Enfin, c'est le sentiment que j'ai.
C'est le coup de balancier.
Oui, non. N'oublions pas. Il y a un virage à droite. Il y a la base d'Emmanuel Macron qui est LR, LREM. Mais n'oublions pas que Emmanuel Macron n'a pas perdu une partie de l'électorat de gauche. Dernier baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, il a un tiers d'approbation dans l'électorat de gauche. Et sur ce qu'a dit Arnaud, je partage complètement. En plus, on ne s'adresse pas à une jeunesse, mais à plusieurs jeunesses. Emmanuel Macron est plutôt populaire au-dessus de sa moyenne chez les 18-24 ans, parce qu'ils sont souvent plutôt protégés. Il est en vraie difficulté, et ça va, je pense, encore se dégrader chez les 25-30 ans. La génération de l'insertion qui va être pénalisée très fortement, et qui est pénalisée, hein, on en connaît tous dans notre entourage, des problèmes de stage, des problèmes d'insertion par la crise économique. Et puis, Emmanuel Macron a finalement fait un score honorable dans la jeunesse à la présidentielle parce qu'une partie des jeunes se sont mobilisés en fin de campagne pour éviter Marine Le Pen au second tour.
Alors Frédéric, c'est vrai, il paraît qu'il y a 50% de la tranche des 15-34 ans qui ont suivi cette interview.
Ah, j'en ai aucune idée, ça me paraît énorme.
Ça me paraît beaucoup, je ne sais pas comment on peut calculer ça.
Mais oui,
Sophie, certains de nos éditeurs ont été choqués par le terme que vous avez employé de « basané », qui est effectivement connoté très, très péjoratif. Voilà, cause basané, bronzé, on peut dire, de gens qui n'ont pas le même... Le président de la République a dit quand on n'est pas blanc, voilà, quand on n'a pas la peau blanche.
Ouais. Oui, mais alors, on euphémise tout. Enfin,
on euphémise tout, je suis d'accord avec vous, mais je le signalais, voilà.
Révélateur de l'époque.
Révélateur absolument de cette époque. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous en pleine forme, je n'en ai pas douté. Très bonne journée sur Sud Radio.